Et les matins se poursuivent avec le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ils ont créé une association pour faire vivre leurs propositions. Les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont rendu hier le fruit de 9 mois de travaux à la ministre Elisabeth Borne. Entre enthousiasme et fébrilité face à l'ambition de ces projets. Reportage dès le début de ce journal.
Le gouvernement envisage un référendum après la remise des propositions de la Convention citoyenne. Mais le référendum est un outil politique risqué. C'est le thème du billet politique de Frédéric Saïs juste après ce journal.
À quoi sert de reprendre les cours en primaire et au collège à partir d'aujourd'hui, 2 semaines avant les vacances d'été? Intérêt psychologique et social avant tout, estiment les chefs d'établissement, vous l'entendrez.
6 jours avant les municipales, nous ferons étape à Lille, triangulaire pour le second tour où le candidat écologiste appelle les macronistes à voter pour lui et non pour la candidate En Marche, ou qui relèverait selon lui d'un vote au bris.
Les États-Unis vont-ils s'affranchir du dernier traité limitant les armes nucléaires? La question se pose aujourd'hui alors qu'Américains et Russes vont pourtant discuter à Vienne de désarmement. 500 pages pour dessiner le monde d'après, plus vivable, plus responsable, avec notamment moins de gaz à effet de serre. La Convention citoyenne pour le climat a rendu hier le fruit de ses 9 mois de travaux à la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. 149 propositions, dont 2 avancées potentielles majeures. Les 150 citoyens tirés au sort pour répondre à la colère sociale après le mouvement des Gilets jaunes proposent un référendum pour modifier l'article 1er de la Constitution afin de préserver l'environnement et la biodiversité. Ils en proposent un autre pour reconnaître le crime d'écocide, de crime contre l'environnement. Cela pourrait empêcher le lancement de projets polluants ou détruisant la nature. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
Vous avez suivi ces travaux pour France Culture et noté beaucoup de fierté d'avoir porté des projets ambitieux, mais aussi de la fébrilité de la part des citoyens sur la manière de faire vivre ces projets, Véronique.
Alors fierté déjà d'avoir réalisé un travail extrêmement sérieux, 149 propositions. La seule rejetée concerne la réduction du temps de travail de 35 à 28 heures, mesure assurément incompréhensible par les Français en cette période de crise économique, ont estimé les citoyens. 149 propositions, donc plutôt radicales, pour changer en profondeur la société dans un souci de justice sociale. L'obligation, par exemple, de rénover les bâtiments d'ici 2040, rénovation globale, la diminution de l'usage des produits phytosanitaires de 50% d'ici 5 ans seulement, la généralisation de l'éducation à l'environnement, une renégociation du CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, etc. Il y en a beaucoup d'autres.
Et finalement, Véronique, aucune de ces 149 propositions ne sera soumise à référendum.
Non, au final, eh bien, peur de choisir, peur de ne pas trouver la légitimité auprès des Français. Énorme regret, en tout cas, pour William et Brigitte de citoyens.
Le référendum, il n'y a rien de mieux pour discuter de citoyen à citoyen, pour le coup.
Mais c'est un ratage complet. Les 150 ont pris peur de présenter leurs mesures aux citoyens, puisqu'ils disent tous que ça va être rejeté. Peur d'être désavoué.
Voilà, pour Yolande, autre citoyenne, eh bien c'est maintenant aux parlementaires d'être courageux.
Maintenant, il va falloir mouiller la chemise. C'est pas tout de dire oui, on vous soutient. Allez-y les gars, faites votre boulot de parlementaire et allez pas voter ce que vous avez voté depuis 2 ans à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Allez voter vraiment pour l'écologie.
Voilà, il y aura quand même de référendum sur 2 points, vous l'avez dit tout à l'heure Catherine, et pas des moindres. Cyril Dion est l'un des garants de la Convention.
Leur choix est hyper intelligent parce qu'en fait, ils ont décidé que les questions référendaires seraient des questions juridiques. C'est la Constitution, avec l'article 1er et le préambule. On a interrogé un peu en off Laurent Fabius qui a quand même confirmé que changer quelque chose à l'article 1 de la Constitution, ça changeait tout sur le plan juridique, dans la capacité ensuite de pouvoir arbitrer sur un certain nombre de cas de destruction d'écosystèmes. Et puis sur l'écocide, il faut quand même se rendre compte de ce que c'est. C'est-à-dire qu'ils proposent d'avoir une haute autorité indépendante qui pourrait regarder toutes les lois et dire non, cette loi met en déséquilibre les limites planétaires. Donc d'une certaine manière, c'est une révolution.
Les 150 se sont regroupés en associations. Ils ont bien l'intention effectivement de faire vivre leur travail, de le défendre. Et puis ils rencontrent bien sûr Emmanuel Macron le 29 juin à l'Élysée. Là aussi, ils porteront leurs propositions devant le chef de l'État.
Véronique Rebérotte, merci pour ces explications. Tout le monde en classe à partir de ce matin. Retour obligatoire en cours de la maternelle au collège, mais pour 2 semaines seulement avant de partir en vacances cet été. Le protocole sanitaire a été assoupli. Fini les distanciations à la maternelle et au primaire. Au collège, il faut désormais désormais respecter 1 mètre de distance latérale, sinon c'est masque obligatoire. Les parents sont appelés à avoir confiance dans l'éducation nationale, a rappelé hier la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Si le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, estime lui que chaque jour d'école compte, Nicolas Bonnet, principal du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort dans l'agglomération bordelaise, doute lui de l'intérêt pédagogique de cette rentrée. Il estime que le retour de ces 700 élèves est tout de même utile.
C'est utile dans le sens de la sociabilisation, qu'ils puissent retrouver leurs professeurs, retrouver un rythme un petit peu scolaire avant de partir en vacances. Donc ça fait créer un lien avant la rentrée de septembre, c'est important. Après, en termes d'acquis scolaires, je pense pas qu'on va combler le retard ou en tout cas les lacunes qui auraient pu se faire jour pendant l'enseignement à distance. Simplement, je crois que c'est important qu'ils se retrouvent avec leurs camarades, avec leurs professeurs, parce qu'il y a aussi un lien fort qui s'était créé avec leurs professeurs, et donc c'est important qu'ils puissent les revoir avant de partir vraiment en vacances. Ce qui est plus inquiétant, c'est pour les élèves que l'on n'aura pas du tout revu et qui auront perdu les réflexes scolaires, l'habitude de se lever le matin, de respecter des horaires et de respecter un mode de fonctionnement de type classe. Voilà, c'est plutôt ça qui nous inquiète à l'heure actuelle, et pas tellement le problème des acquis scolaires en eux-mêmes.
Nicolas Bonnet, principal du collège Emmanuel Dupaty à Blanquefort, près de Bordeaux, il répondait à Yvan Planteil. Ce lundi marque également la reprise des sports collectifs. Les stades rouvriront au public le 11 juillet prochain, date qui marquera la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire métropolitain. Direction Lille, à présent, au moins d'une semaine avant le second tour des municipales, le candidat écologiste appelle les électeurs macronistes attendant du changement à, je cite, « ne pas se tromper dans cette triangulaire », estimant qu'un vote pour la candidate En Marche, Violette Spielboot, était un vote Aubry. Martine Aubry, aux commandes de Lille depuis près de 20 ans, va-t-elle devoir rendre son fauteuil de maire? L'ancienne ministre socialiste est arrivée en tête au premier tour le 15 mars dernier, mais le second tour s'annonce extrêmement serré, Rosalie Lafarge.
Celui qui pourrait faire céder le bastion socialiste, c'est lui.
Stéphane Bally, prochain maire de Lille.
Après avoir fait 3 mandats avec Martine Aubry, le chef de file des Verts en est persuadé, c'est au tour des écologistes de prendre les commandes.
C'est une chance historique pour les Lillois, finalement, de choisir entre un quatrième mandat inutile, Martine Aubry, ou le bulletin Lille Verte, le bulletin pour changer enfin de politique, pour demain pouvoir respirer, pour demain pouvoir apaiser la ville.
Un peu facile et surtout pas très honnête, répond la socialiste Martine Aubry.
Ce que je regrette aujourd'hui, c'est que les écolos qui étaient avec nous n'ont pas travaillé pendant ce mandat et ont passé leur temps à prendre des distances. Et leur campagne a été hallucinante, quoi. Je veux dire, comme s'ils n'étaient pas dans la majorité. Je suis désolée qu'on ait une campagne de ce niveau-là. Et moi, j'assume les décisions que je prends et j'ai pas un double discours.
Pendant qu'écologistes et socialistes se renvoient la balle de l'échec de la négociation d'entre-deux-tours, la droite lilloise appelle à voter Martine Aubry pour ne pas faire élire des Verts qualifiés de fous furieux. On en oublierait presque qu'il y a une troisième candidate dans l'histoire.
C'est gros ras-le-bol de la sortante.
Oui, donc il faut agir le 28
ans. Si jamais ça passe, je me fous comme ça pendant 48 heures.
Violette Spielboot a beau être à la traîne dans les sondages, l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry, désormais estampillée En Marche, veut encore y croire.
Je suis celle qui aujourd'hui représente tous les Lillois qui souhaitent changer de maire, changer de politique, devant deux candidats qui gouvernent ensemble depuis plus de 18 ans.
En plus de devoir convaincre les électeurs de voter pour eux, les candidats lillois ont la semaine pour les inciter à aller voter tout court. Au premier tour, la participation a difficilement dépassé les 30% à Lille.
Reportage signé Rosalie Lafarge. 10 enfants de djihadistes français qui étaient retenus dans des camps de déplacés sous contrôle kurde au nord-ouest de la Syrie ont été rapatriés en France cette nuit. C'est ce qu'annonce le ministère des Affaires étrangères. Il s'agit d'enfants orphelins ou de cas humanitaires. Aucune précision n'a été donnée sur leur lieu d'arrivée en France.
8h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutune, nouvelle preuve de la répression menée en Algérie pour empêcher la reprise du mouvement de contestation anti-régime.
La justice algérienne a condamné hier à 1 an de prison ferme la militante Amira Bouraoui, célèbre opposante de l'ère du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Elle a été reconnue de 6 chefs d'accusation, dont offense à l'islam et offense au président de la République Abdelmadjid Tebboune. Amira Bouraoui qui, en 2014, rêver de changer le visage de son pays.
J'ai peur de rien. J'ai peur juste de voir l'Algérie basculer dans la dictature encore. J'ai peur de voir mes enfants grandir dans un pays gouverné avec le non-sens. J'aimerais être une citoyenne libre Et j'aimerais que le peuple algérien soit libre de choisir son président. Il y a un régime corrompu, et il doit s'en aller. Et tous les hommes corrompus doivent reconnaître leur échec et s'en aller pacifiquement. C'est tout ce qu'on demande. Waouh, l'Algérie de demain, ce serait un état de droit, une justice sociale, une vraie justice qui ne fonctionne pas par des coups de fil comme ils le font à présent, en mettant les citoyens justes dans les prisons et en laissant les corrompus s'en aller. C'est surtout une Algérie qui redonne espoir à cette jeunesse, que cette jeunesse ne rêve plus uniquement d'avoir un visa et de quitter le pays. On a tout fait pour tenter de nous lobotomiser. Il n'y a absolument rien pour faire vivre une jeunesse. Il n'y a absolument rien pour redonner espoir. Ils essayent d'imposer, de continuer à imposer la décennie de terreur.
Les mots d'Amira Bouraoui qui résonnent particulièrement, des mots de 2014 au micro de Véronique Rebérotte. Amira Bouraoui a été condamnée hier à 1 an de prison ferme en Algérie. Le parti du président serbe Aleksandar Vučić a étendu hier son emprise sur le pouvoir par un raz-de-marée électoral au Parlement serbe. L'opposition est réduite à peau de chagrin. Elle dénonce aujourd'hui une dérive autoritaire. Une réunion au sommet et en visioconférence aujourd'hui entre l'Union européenne et la Chine. Les Européens veulent rééquilibrer la relation économique avec Pékin en protégeant notamment leurs entreprises fragilisées par la crise de la Covid-19. Raphaël Glucksmann, eurodéputé du groupe social-démocrate, estime au micro d'Angélique Boin qu'il est temps que les Européens reprennent la main sur leurs industries stratégiques.
L'Europe a fait preuve d'une naïveté confondante. Il n'y avait absolument aucune règle, aucune préoccupation de souveraineté européenne, même sur les secteurs stratégiques. On pouvait vendre les ports, les aéroports, les industries de pointe. C'était ça l'Union européenne. C'est une politique qui adhère encore à la fable des années 90 sur la mondialisation heureuse, la concurrence libre et non faussée à l'échelle du globe. Et donc là, enfin, on a un regard lucide sur la situation. Et ça, c'est nouveau. C'est directement lié à la crise, à ce sentiment d'humiliation que les citoyens européens ont ressenti dans notre incapacité à produire des masques, incapacité à produire des médicaments de base, dépendance totale vis-à-vis des producteurs chinois ou indiens. Heureusement, il y a une prise de conscience. On a au moins fait un diagnostic.
L'eurodéputé Raphaël Glucksmann interrogé par Angélique Boin. Les États-Unis vont-ils s'affranchir du dernier traité limitant les armes nucléaires? La question se pose aujourd'hui alors qu'Américains et Russes entament à Vienne des négociations sur l'accord New Start qui expire au début de l'année prochaine. Washington insiste pour inclure dans la discussion la Chine qui refuse d'y participer. Une façon d'empêcher pour l'instant toute limitation des missiles nucléaires, Bertrand Galichet.
Le traité de désarmement, valable jusqu'en février 2021, dont les négociateurs américains et russes doivent débattre à partir d'aujourd'hui, oblige Washington comme Moscou à ne pas déployer plus de 1550 têtes nucléaires sur un maximum de 700 lanceurs stratégiques. Si l'administration américaine tient à ce que la Chine se joigne aux discussions, c'est dans un objectif politique, estime Jean-Pierre Molny, spécialiste des questions de défense à l'IRIS.
L'idée, ça peut être de dire que les Chinois sont dangereux parce qu'ils refuseront de négocier. On va se retrouver dans une situation où on n'aura aucun traité de désarmement nucléaire en cours de validité.
Une situation inédite depuis 1972. Les Chinois n'ont aucun intérêt à limiter leur arsenal nucléaire, estimé à seulement 320 ogives, quasiment le niveau de la France et 5 fois moins que les Américains ou les Russes. Mais pour Washington, le danger vient bien des armes atomiques chinoises en pleine expansion technologique et l'administration Trump, qui s'est déjà retiré de l'accord sur le nucléaire iranien, du traité sur les missiles de moyenne portée et du traité Open Skies permettant de vérifier la limitation des armements, veut avoir les mains libres.
Aux États-Unis, des bombes vont lui tomber dessus, affirmé Donald Trump il y a quelques jours. Une menace adressée à son ancien conseiller à la sécurité, John Bolton, renvoyé en septembre dernier. Il publie demain un livre explosif intitulé « The Room Where It Happened », la pièce où cela s'est produit. John Bolton chronique ses 17 mois passés aux côtés du patron de la Maison-Blanche. Il attaque violemment Donald Trump. Même si de nombreux extraits clés de ce livre étaient déjà connus, son interview hier soir sur la chaîne ABC était forcément très attendue, Loïc Loury.
En novembre prochain, John Bolton, dit-il, ne votera surtout pas pour Donald Trump. C'est dire à quel point l'ancien conseiller va en guerre, pourtant nationaliste et profond conservateur, tient le président en estime, un incompétent selon lui. Je ne crois pas qu'il soit fait pour ça, il n'a pas les compétences pour assurer une telle charge. Vraiment, je n'ai pas pu discerner chez lui un seul principe qui le guiderait, excepté tout ce qui serait favorable à sa réélection. Inapte et prêt à tout, flirter par exemple avec les dictateurs, Vladimir Poutine, dit John Bolton, se jouait de Donald Trump. Trump comme d'un violon. Quant à Kim Jong-un, le comportement du président, assure-t-il, est allé jusqu'à la folie. Chaque président a son style, mais cette couche dégoulinante de compliments adressée à ce dictateur brutal, j'ai trouvé que c'était particulièrement naïf et dangereux. Pourquoi alors ne pas avoir témoigné lors du procès en destitution du président plutôt que de publier un best-seller en puissance? Ça n'a rien à voir avec le profit. Pour le peuple américain, il n'y a pas de moment plus opportun qu'une campagne présidentielle pour observer la personnalité de ceux qui se présentent à cette élection. Mais cela ressemble tout de même à une petite vengeance, celle d'un conseiller, comme tant d'autres, renvoyé avec pertes et fracas par Donald Trump.
Loïc Loury aux États-Unis pour France Culture. Retour en France avec la réouverture attendue des amoureux du cinéma, puisque les salles rouvrent aujourd'hui. Quelques salles ont même décidé d'ouvrir leurs portes hier soir à minuit, histoire de célébrer l'événement. C'était notamment le cas du cinéma Les 5 Comartins près de la gare Saint-Lazare à Paris. Mathieu Culeron y était pour France Culture.
C'est vachement bonne.
Ouais.
Si, non ?
Il est minuit une, le film Les Parfums avec Emmanuel Devos et Grégory Montel est diffusé en avant-première. Devant la salle, le plus ému, c'est Samuel Merle, programmateur et gérant du cinéma Les 5 Comartins.
Ça fait 99 jours que l'ancienne cinéma bleue est éteinte. C'est comme l'an 2000, quand j'avais 16 ans. C'est plus que ça, je suis tout excité. J'habite dans le cinéma, juste au-dessus, donc je passais ma vie dans les salles, à nettoyer, à ranger, à faire des tests de projection, à me regarder des films tout seul. La fête est là, le champagne est là, et surtout le cinéma est là, et les sièges rouges sont enfin remplis.
Bonne soirée, bon film, merci.
Le public, nombreux, lui, s'est précipité à cette séance exceptionnelle pour défendre une certaine idée du cinéma.
C'est vrai que c'est une chose qu'on n'a pas faite depuis bien longtemps. Donc retrouver les sons, les gens, les ambiances, les odeurs.
C'est une sensation un petit peu particulière, vu l'heure tardive, mais on tenait à être là tous les deux ce soir.
Le cinéma, le spectacle, le théâtre, le concert, voilà. Tout ça, c'était manquant. Maintenant, ça revient. Le concert, j'y étais tout à l'heure et le théâtre, ça sera demain.
Vous êtes heureux, là ?
Ah oui.
Le cinéma Les 5 Comartins qui a fait vibrer hier soir à l'unisson, pour la première fois, son public depuis 3 mois.
Un reportage signé Mathieu Culeron. L'auditorium de Radio France est l'une des premières salles de concert à rouvrir ses portes cette semaine à Paris, avec le plaisir pour les musiciens de retrouver la scène, des conditions sanitaires strictes, un fauteuil sur deux occupé, un masque pour venir dans la salle, une distanciation physique dans la file d'attente pour les spectateurs, mais aussi entre les musiciens. Le premier concert sera le 25 juin prochain, ce jeudi donc, avec l'Orchestre National de France et des œuvres de Bach et de Bartok notamment. Le temps de ce lundi 22 juin, encore instable. Le soleil sera contrarié par des nuages et des averses. Les températures sont comprises ce matin entre 6 et 15 degrés dans la moitié nord du pays. Comptez de 12 à 21 au sud. Au meilleur de la journée, il fera 23 degrés à Valenciennes, 24 à Paris, à Rennes et à Mulhouse, 27 degrés à Bordeaux, à Lyon et à Nice, 31 à Narbonne.